RCF. Il est 7h30, l'heure du journal, présenté par Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à toutes et à tous.
J-3 avant le premier tour des élections.
Nous poursuivons notre série décryptage des propositions de partis. Ce matin, on s'intéresse au prix des carburants. Quelles mesures pour faire baisser votre facture? On en parle dans un instant. Il y a un an, le jeune Naël était tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre. Décès qui avait provoqué des émeutes dans certains quartiers. Des émeutes qui ont laissé des stigmates dans certaines villes. À l'international, 61 millions d'Iraniens sont appelés aux urnes aujourd'hui pour la présidentielle. Un peu moins d'un mois après la mort de l'ancien président Ebrahim Raisi. L'issue du scrutin est incertaine, vous l'entendrez.
À 3 jours du premier tour des élections législatives, Marine Le Pen a fait monter la tension sur une possible cohabitation en réduisant la fonction de chef des armées du président de la République à, je cite, un simple titre honorifique.
Des propos polémiques qui interviennent quelques jours après ceux sur l'interdiction d'accéder à des emplois sensibles pour les binationaux. En France, il représente environ 5% de la population et de nombreuses voix se sont élevées pour pointer une mesure discriminatoire. Quoi qu'il en soit, cette proposition soulève des questions à la fois sur son intérêt et sur son application, Suzanne Marion.
Concrètement, cette mesure pourrait priver l'État de certains talents. Par exemple, Olivier Mas, ancien cadre de la DGSE, explique que dans les années 2000, de nombreux binationaux maghrébins ont été recrutés pour faire face à la menace terroriste.
Il y a des veilles qu'on fait sur les réseaux, les forums. Quand on veut infiltrer un forum djihadiste, il y a une terminologie qui ne s'invente pas. Donc il faut baigner dans cette culture de l'islam et du Coran pour pouvoir répondre, donc pour comprendre, pour infiltrer, pour avancer dans la lutte contre le terrorisme. Cet apport-là, il est fondamental, indispensable.
Mais en réalité, ce n'est même pas sûr qu'en cas d'un gouvernement RN, cette mesure puisse être appliquée. Le spécialiste de droit public Mathieu Carpentier pointe le principe constitutionnel d'égalité qui pourrait y être opposé.
J'ai du mal à concevoir comment, en l'état actuel de la jurisprudence, une telle mesure pourrait être conforme à la Constitution. Les règles du droit de la nationalité sont, sur ce point, régies par un strict principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de rappeler qu'il n'y avait pas, entre les Français, quel que soit le mode d'acquisition de la nationalité, de différence de situation, et que dès lors, il n'y a pas de différence de traitement à avoir.
Mais comme il le rappelle, il s'agit d'interprétations du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, et il ne faut pas exclure que la jurisprudence puisse évoluer.
Le député sortant RN Roger Chudeau a estimé hier chez nos confrères de BFM qu'un membre du gouvernement ne pouvait pas être binational car cela posait un problème de double loyauté. Il a notamment pris l'exemple de l'ancienne ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem.
On continue notre série décryptage des propositions de partis. Et ce matin, Lucie, on parle baisse des prix à la pompe, un argument de campagne.
Oui, le pouvoir d'achat priorité des Français pour les élections législatives. Que proposent les partis en la matière? On s'y intéresse avec vous, Jean-Baptiste Labeur.
Pour baisser les prix à la pompe, le nouveau Front populaire propose de bloquer les tarifs, mais aucune précision n'a pour l'instant été donnée sur le prix maximum d'un litre de gasoil ou d'essence. Le Rassemblement national avance, lui, une baisse de la TVA de 20 à 5,5% sur les énergies et le carburant. Avec cette mesure, les prix baisseraient de 20 centimes le litre en moyenne. Le coût pour l'État serait entre 10 et 15 milliards d'euros selon les estimations de Bercy. Si la directive européenne de novembre 2006 sur la TVA permet à tout État membre d'appliquer un taux réduit d'au moins 5% aux fournitures de gaz naturel, d'électricité et de chauffage urbain, le carburant ne figure pas dans cette permission et le RN devrait donc demander une dérogation. Du côté de la majorité, pas de nouvelles propositions sur ce sujet. Les aides déjà distribuées restent une option. On se souvient du dernier chèque essence dont tous les Français n'avaient pas profité. 600 millions d'euros avaient alors été dépensés par l'État.
Et toujours sur ces élections, notez que 2/3 des électeurs prévoient d'aller voter dimanche, selon IFOP Fiducial, ce qui correspondrait au meilleur taux de participation à ce type d'élection depuis 1997. 2 millions de procurations ont également été enregistrées.
Dans le reste de l'actualité, il y a un an, le jeune Naël était tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre.
Un décès qui a provoqué la colère dans certains quartiers de la France entière et une semaine d'émeutes où de nombreux bâtiments publics ont été des cibles. Selon un rapport sénatorial publié en avril, 80% de bâtiments ont été dégradés qui ont été dégradées et incendiées, pardon, ont été remises en état. Mais dans de nombreuses communes, des cicatrices restent visibles, comme le témoigne Stéphane Ablot, maire de Vendeuvre-les-Nancy, en Meurthe-et-Moselle.
Nous, on a été affectés sur deux bâtiments, un communal au niveau d'une crèche et un au niveau des impôts. D'ailleurs, ces bâtiments étaient proches. Les impôts, ça appartient à l'État, donc il n'y a pas eu de suite. On n'a pas eu de réponse, en tout cas, sur comment le sang des impôts va être refait. Pour ce qui concerne la crèche, la commune a tout retapé, tout est refait, elle est fonctionnelle, elle est neuve. Le climat s'est relativement apaisé, bien qu'il y ait encore des tensions, évidemment, hein, donc on n'est pas à l'abri. Il ne faut pas non plus être aveugle sur ce qui se passe. Hein. Vous savez, il y a une pauvreté terrible. Dans les quartiers, il y a des groupes qui se sont formés avec des économies souterraines. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est qu'on ne doit pas laisser le terrain abandonné. Donc, ce qui est mis en place, on continue sur la sécurité, la vidéosurveillance, une présence de la police. Les effectifs ne sont pas encore présents au niveau de l'État. C'est dommage, il faudrait plus de monde. Après, tout ne se résout pas au niveau de la répression. Donc, nous, on continue à faire ce qu'on doit faire.
À l'international, Joe Biden et Donald Trump au coude à coude dans les sondages se sont affrontés sur le coup de la vie hier lors du premier débat présidentiel. L'inflation est en train de tuer ce pays, a dit Donald Trump. Biden lui a répliqué qu'au contraire, la conjoncture était en chute libre quand Donald Trump avait repris les rênes du pays.
61 millions d'Iraniens sont appelés aux urnes, eux, aujourd'hui.
Oui, pour la présidentielle, un peu moins d'un mois après la mort de l'ancien président Raisi, l'issue du scrutin est incertaine en raison de la percée d'un réformateur face à des candidats conservateurs divisés, Magali Santulli.
Oui, la surprise pourrait provenir du seul candidat réformateur, Massoud Pezeshkian, un député de 69 ans qui était quasi inconnu. Ce médecin a redonné espoir au camp réformateur et modéré, totalement marginalisé ces dernières années par les conservateurs et ultra-conservateurs. Face à lui, les partisans du pouvoir actuel se divisent entre deux candidats, dont un ancien négociateur ultra-conservateur du dossier nucléaire et hostile à un rapprochement avec l'Occident. Seuls 49% des Iraniens avait voté à la présidentielle de 2021 pour laquelle aucun candidat réformateur ou modéré d'envergure n'avait été autorisé à concourir. Quel que soit le résultat, l'élection devrait avoir des répercussions limitées car le président a des pouvoirs restreints. Il est chargé d'appliquer les grandes lignes politiques fixées par le guide suprême qui est le chef de l'État. Pour ce dernier, l'ayatollah Ali Khamenei, le candidat le plus qualifié pour être président, devait être celui qui croit vraiment au principe de la révolution islamique. Il a cependant précisé que le pays ne devait pas couper ses relations avec le monde.
Retour en France à présent, J-3 ou J-2 plutôt avant le premier tour des élections législatives.
Des élections dans un climat d'anxiété, de peur, une situation stressante et inquiétante, c'est peut-être ce que vous ressentez. Eh bien, il existe des astuces pour faire redescendre la pression. Chacun a ses solutions dans ce contexte compliqué, Lucie Jacquemin.
Le futur devient de plus en plus stressant avec tout ce qui se passe, que c'est vraiment l'incertitude qui déclenche ce stress chez moi.
Swan a 22 ans et depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin dernier, son angoisse a augmenté. Elle essaye tout de même d'apaiser ses inquiétudes.
Ce qui m'aide à déstresser, c'est d'avoir des réponses à mes questions, de discuter aussi autour de moi de mes craintes pour savoir si elles sont partagées ou pas, ou si parfois ça peut être infondé. Et je sais que je vais beaucoup au cinéma aussi pour éviter de stresser.
Léo, lui aussi est sous pression face à l'actualité, mais il a trouvé une autre solution pour retrouver ses esprits.
Quand il y a une période d'élection comme ça, j'essaie un peu de, par exemple, de quitter un peu Twitter, même Instagram, de prendre un peu de recul, parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'informations.
Une autre réponse pourrait être d'ordre spirituel. À Mulhouse, le centre Porte Haute organise des conférences et des échanges sur des sujets de société. Christophe Krutz en est le coopérateur de la pastorale et pour lui, il existe un autre moyen de prendre ses distances avec les événements.
Se mettre dans une situation où on nomme les bonnes choses qui nous sont arrivées et ensuite déposer devant le Seigneur nos difficultés, nos échecs.
Les résultats de ce premier tour des législatives seront connus à 20h le 30 juin.
Le reportage de Lucie Jacquemin pour RCF Alsace. Et puis on termine par du sport, comme d'habitude dans ce journal. Un mot de rugby d'abord, avec un derby de la Garonne pour lancer ce long week-end de sport. La saison de top 14 s'achèvera ce soir avec la finale entre Toulouse et Bordeaux-Bègles. Et puis, Pierre-Hugues, on n'oublie pas le match de l'équipe de France lundi. Ce sera à 18h face aux Belges, les Diables Rouges pour l'Euro. Donc.
Les Diables Rouges, comme on les appelle. Merci beaucoup, Lucie Rispal, pour le journal de la rédaction de RCF. À réécouter sur le site rcf.fr et très bon week-end, chère Lucie.